un rapport d'une telle importance sur table, au dernier moment, c'est pas quand même démocratiquement la meilleure idée. Vous auriez pu le mettre dans les autres délibérations et on aurait ainsi connu plutôt les arguments de votre rétro-pédale. Ceci dit, c'était un secret de polichinelle que ce soir vous vous exprimeriez de manière différente de novembre dernier. Et je voudrais commencer à parler de cela justement. Novembre 2015, juin 2016, quelle surprise et quelle évolution. Je me rappelle qu'en novembre, le projet de la préfète n'avait reconnu que 3 voix favorables. Que 3 voix favorables. La voix de Pierre Lagonel, la voix de Michel Fabre et la mienne. Et aujourd'hui, on ne sait pas, puisque vous allez nous faire voter à butin secret, ce je crois que je suis tout à fait d'accord. Je fais le pari, que ces votes favorables vont être multipliés par un coefficient extrêmement important. Je fais le pari que beaucoup, ici, qui s'est exprimé contre, droit, vont s'exprimer pour cette fois-ci. Alors, moi je suis un esprit rationnel, je crois, je vais essayer de chercher pourquoi il y aurait une telle différence entre novembre et juillet. Quels sont en particulier les éléments positifs qui amènent à aller sur la proposition de la préfète. Lorsque je lis votre délibération, au passage, j'en retiens pas beaucoup d'éléments positifs, surtout que des éléments négatifs qui peuvent être résumés dans la formule suivante. Si on ne l'a pas, ça sera encore plus que nous. Quel enthousiasme pour cette future ALO. J'avais à l'époque, en novembre, donc, argumenté en parlant de visibilité, en parlant de nos atouts, de l'union qui fait la force, mais peine perdue, je l'ai dit trois fois, c'était un peu prêché dans le média. Et il me semble qu'aujourd'hui, ces arguments trouvent un écho inattendu. Et finalement, je m'en réjouis. Il y a cet écho inattendu, pas pour avoir eu raison avant d'autres, mais surtout parce que, de mon point de vue, l'échec de la grande armée aurait été la pire façon de préparer l'avenir pour notre territoire et pour ses habitants. La pire façon de préparer l'avenir. Dans une nouvelle région, il y a la position de l'Ouest. Notre territoire aura, avec la grande agglomération, une visibilité et des atouts indéniables avec la réunion des forces de l'Arc, de Lourdes et l'Océan. Donc, je m'en réjouis, mais je m'interroge aussi. Que s'est-il passé? Alors, regardons du côté du périmètre. Quelle est la différence entre le périmètre de la dernière fois et celui-ci? C'est le même exactement. Oh pardon, pas tout à fait. Soyons précis. On passe de 6 communautés de communes à 7 depuis février, avec l'ajout de la communauté de communes du Montaigu. On passe de 70 communes à 86 et de 121 448 habitants à 123 011. Ce n'est pas véritablement des grandes différences. Est-ce que c'est ce changement qui a fait évoluer? Sûrement pas. Le principal reproche qui était fait à l'agglomération était d'être trop grande. Je cite la délibération du mois de novembre. L'argument qui consisterait à dire que pour exister à côté des nouvelles métropoles et régions élargies, il faudrait que l'ambition d'un territoire en l'occurrence par le sol lourd soit porté par une grande agglomération n'est pas démontré. Et encore, autre citation, une grande structure, mais pas obligatoirement synonyme de dynamisme, de levier fort dans le développement d'un territoire. Troisième et dernière citation, la dénonciation de notre collègue François-Xavier Collier sur l'idée de la grande agglo, et il évoquait le mythe, lui, d'une dimension optimale. Il n'y a pas de dimension optimale. Non, à l'évidence, donc, me semble-t-il, l'évolution ne vient pas de la dimension. Nous avions une grande agglo, nous aurons toujours, et c'est heureux de le rappeler, une grande agglo. Cherchons ailleurs. Peut-être dans les arguments que vous aviez développés, monsieur le maire, j'ai relu attentivement le compte rendu. Vous disiez, ce n'est pas le périmètre qui compte, c'est la qualité des projets et de ceux qui vont les porter. Regardons d'abord la qualité des projets. Cela signifiait pour vous, il faut définir d'abord les projets pour voir ensuite si l'on veut célébrer le mariage. Alors, toute une série de métaphores qui avaient été utilisées sur divers bancs à l'époque. Qu'en est-il de ces projets? Personne n'en a vu. Vous avez vu que vous avez consulté beaucoup de communautés de communes, tenu beaucoup de réunions, mais pas un mot sur les projets. Donc, ce n'est pas les projets qui nous ont amenés à changer d'avis. Ça me paraissait d'ailleurs évident à l'époque. On s'unit pour former un territoire fort. Il y aura la carrure pour porter des actions. Donc aujourd'hui, pas plus qu'hier, bien sûr, la réalité des projets. Regardons, c'est un argument que vous développiez, la qualité de ceux qui vont les porter. La qualité des personnes, des élus qui vont les porter. Cela a été illustré par vous par un parallèle avec cette pauvre agglo-tarbaise qui ne faisait plus rien depuis que vous n'étiez plus le président. On pouvait penser au contraire, et c'était les arguments que en ce qui concerne développer, que la gouvernance serait définie par l'intelligence collective des élus, par la volonté de travailler ensemble et la capacité à agir dans le cadre de cette responsabilité partagée avec un esprit d'ouverture très loin des questions de pouvoir personnel. Bref, constatons que les arguments de novembre contre la loi Grande Agglo, objectivement et pour tout esprit rationnel, n'ont pas avancé dans le sens voulu par les opposants. Vous étiez par les opposants de l'époque. Les raisons de ce changement sont donc à chercher ailleurs, mais pour le coup, en dehors de toute rationalité. Mais vous savez, au point où j'en suis, je ne veux pas chercher ailleurs. Et finalement, ce qui va compter, c'est le nouveau vote de ce soir. Je parlais en novembre de posture politicienne. Je constate aujourd'hui qu'elle ne nuise finalement pas un projet dont j'ai toujours défendu la pertinence et l'efficacité. Revenant sur l'intelligence collective de la bonne volonté de chacun, qui est l'essentiel finalement du débat démocratique, nous en trouvons l'illustration aujourd'hui. Ce sera ma conclusion, en relevant que de temps en temps, il suffit de reposer la même question une deuxième fois pour tomber d'accord. Je m'en réjouis.
Je ne vous cache pas, M. Palman, que je suis extrêmement déçu.
Effondré de la
question. Non.
Effondré.
Vous êtes amusé, là, c'est très bien. Je suis extrêmement déçu que vous ne puissiez considérer, alors que j'ai dit moi-même, j'étais pas. Que notre décision avait été prise à titre conservatoire. Ça n'avait rien sur les conséquences fiscales, financières, sur les projets qui peuvent être portés et vendus par les uns et par les autres, sur les divergences de compétences. Comment ces divergences de compétences vont se régler demain? Par exemple, quand la CCPL a pour compétence le service éducation, la petite enfance, etc. Comment demain nous allons pouvoir concilier tout cela avec l'ensemble des autres communautés de communes, sachant que par exemple pour nous, si on transfère demain l'éducation et la petite enfance, on va transférer entre 300 et 400 personnes, peut-être même plus, de la ville de Tarbes. Est-ce que vous croyez que ça se décide comme ça, parce que en quelques jours, on nous présente le projet de grand agglo, etc. Donc, je suis un peu surpris que vous considériez, que vous preniez à la légère les investigations que nous avons développées depuis des mois, tant avec le service de la préfète, avec lequel j'ai écrit deux fois, et j'ai rencontré à plusieurs reprises, avec le directeur des finances publiques, et que vous validez d'un revers de main avec votre posture politicienne, si vous parlez de posture politicienne, que vous balayez d'un revers de main toutes les rencontres que nous avons organisées avec l'ensemble des maires concernés. Personne ne les a rencontrés, personne ne les a écoutés, personne. Aujourd'hui, vous verrez d'ailleurs le vote de bon nombre de ces communes qui n'ont pas été convaincues nécessairement, toutes, par les arguments qu'on a pu échanger, que la préfète a pu développer, que d'autres personnes ont pu développer. Vous verrez que le problème est loin d'être réglé et que subsistent encore des interrogations, notamment sur les comptes fiscales. Est-ce que, et financières, est-ce que vous avez regardé les comptes de la CCPL, par exemple? Vous avez regardé?
Le Grand Arbre a produit un document, a produit une étude.
On est heureux d'apprendre.
Comment? Le Grand Arbre a produit un document.
On est heureux d'apprendre. Bon, on va pas jeter comme ça. Monsieur, s'il vous plaît,
non.
Laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas, monsieur Bagnard. Arrêtez avec votre polémique. Je ne vous ai pas interrompu. Je dis, est-ce que vous avez regardé les comptes de la CPL? Nous, on les a examinés. On a attendu qu'ils soient votés, votre administratif, on l'a examiné. Honnêtement, quand la CCCO s'inquiète d'une alliance avec la CCPL compte tenu de la fragilité financière, bon, si vous ne m'écoutez pas, ce n'est pas la peine. J'arrête. Quand la CCCO s'inquiète légitimement de la situation de la CCPL, moins dans des choses, c'est que nous, on regarde un peu la réalité des choses et qu'on puisse évaluer les conséquences. Est-ce que vous savez, par exemple, combien représente de recettes supplémentaires la décision qui a été prise par la CPL dans le budget 2016 d'augmenter les impôts de près de 16%. Combien ça représente? Plus de 2 millions de recettes. 2 millions 68 000 euros de recettes avec la variation des taux et des bases. Et avec ça, on dégage un excédent de fonctionnement de moins de 60 000 euros. Imaginez ce que cela représente sans cette augmentation très significative de la fiscalité. Est-ce que cela ne méritait pas d'être examiné? Les conséquences de tout cela? Est-ce qu'il n'était pas légitime de discuter, y compris avec les petites communautés de communes, avec les petits maires, avec les communes de 30 ou 40 habitants, écouter leurs inquiétudes, et éventuellement développer la pédagogie de l'intérêt demain du travail collectif au sein des grands agglos? Est-ce qu'il n'était pas légitime également de regarder, entre le moment où nous avons pris une décision défavorable de votre petit conservatoire, de regarder ce qui se faisait ailleurs, dans les départements voisins? Quand on voit ce qui se passe au Pays Basque, en Béarn, dans le Gers, partout, effectivement, avec un démarrage extrêmement difficile, compliqué. Et bien aujourd'hui, il se dirige vers de grandes communautés d'agglomération. Bien, si vous considérez qu'il n'était pas légitime de procéder à tous ces examens au préalable, eh bien, nous avons considéré que c'était nécessaire, que c'était indispensable. Alors, moi, je note que vous êtes amusé à cet exercice de polémique, comme vous aimez les faire. Je n'ai rien entendu de constructif dans votre propos, rien du tout. Rien de plus. Donc voilà, vous voulez les raisons, je les donne en détail. Il y avait une pédagogie nécessaire à faire auprès
Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Personne.
Voilà, my family.